تطبطبطبطبيني تطبطمصيطيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصيطيني زماني الغايب عالحياة الفرحة. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Moi, je lis et avec vous, je partage. Pour y arriver, j'emprunte les voies traditionnelles, je chronique les ouvrages et interviewe les auteurs, quand c'est possible. Et puis, je prends aussi la tangente, les chemins de traverse, je vous propose de faire l'école buissonnière chaque semaine. Pour ce faire, je vous propose une playlist par ouvrage évoqué. Quel titre pour vous dire tel personnage, quel autre titre pour vous dire le rythme d'un récit. Bref, on partage des émotions pour partager de la musique et des bouquins ici dans Rock'n'Page. Au sommaire cette semaine, un Olney. Un objet littéraire non identifiable, non identifiable, et Dieu que c'est bon quand c'est non identifiable. La langue des oiseaux, quel amoureux, quelle amoureuse êtes-vous, vient tout juste de sortir chez Cambourakis. Il est signé par Rachel Esterman-Ullman, et le tout dans la collection Sorcière, et je peux vous dire qu'en voilà une sacrément bonne sorcière. Hein, quand on en rencontre des comme ça, il ne faut pas les lâcher. Et comme les sorcières, moi je les aime, et comme Bis Repetita, cet ouvrage est un régal à découvrir, seul ou à plusieurs. J'aurai l'immense honneur de la recevoir, cette Rachel-là. D'ici une poignée de minutes, elle nous en dira beaucoup plus long sur son trésor de bouquins. Et puis, nous nous paierons le grand luxe d'une chronique de Léo Milodic, et ce sera toujours avec autant de fierté. Mais avant toute chose, voici comment, moi, je l'ai reçue lors de la première lecture, La langue des oiseaux de cette Rachel.
Pour toi, soudain, le gris du ciel n'est plus si gris. Pour toi, soudain, le poids des jours n'est plus si lourd. Voilà que sans savoir pourquoi, soudain, tu ris. Voilà que sans savoir pourquoi, soudain, tu vis. Car te voilà, oui, te voilà, amoureuse, 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 tellement amoureuse. C'est vrai, alors le gris du ciel n'est plus si gris. C'est vrai, alors le poids des jours n'est plus si lourd. C'est vrai, alors soudain tu sais pourquoi tu ris. C'est vrai, alors soudain tu sais pourquoi tu vis. Car il est là, oui il est là, amoureuse, 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 tellement amoureuse. Puis soudain le gris du ciel redevient gris. Et puis soudain le poids des jours redevient lourd. Tout est fini, l'amour se meurt. Il est parti, et toi tu pleures. Et c'est fini, oui c'est fini. Malheureuse, malheureuse, malheureuse. Tellement malheureux.
Voilà, c'était Amoureuse de Barbara, parce que oui, il est bel et bien question de cela. Dans La langue des oiseaux, quel amoureux, amoureuse êtes-vous, de Rachel Esterman-Ullman, qui vient tout juste de sortir chez Cambourakis. Alors c'est un objet tout à fait non identifiable, je le disais, tout à fait hors norme, auquel on ne peut pas coller d'étiquette. Il se présente sous la forme d'une espèce de préambule, que je peux vous lire d'ailleurs. J'ai pensé aux trois poèmes qui marquent le temps de l'aventure, à la lettre imaginaire qu'elle ne lira pas, et puis à écrire un texte par contrainte avec tout ce qui est dit entre les lignes. Mais la pression de garder la légèreté tout en disant la tristesse, du rejet, de l'humiliation, de la blessure, et tout autant la brillance de son esprit, son indéniable beauté, sa douceur malgré tout, rendait l'entreprise trop violente. Voilà, il est là le projet littéraire de Rachel Esterman-Ullman dans La langue des oiseaux, quel amoureux, quelle amoureuse, quelle amoureuse êtes-vous ? Donc ça, c'est l'espèce de préambule. Donc on comprend qu'un personnage féminin est tombé amoureuse d'une femme qui elle, ne ressentait pas, ne partageait pas cette émotion. Et donc, pour restituer et ce personnage, pour s'en détacher aussi, pour éloigner la douleur de ce rejet-là, en fait, l'auteur va choisir de, dans un premier temps, nous livrer des tests, des espèces de tests psychologiques, mais alors absolument délirants, qui là renvoient à un univers quasiment oulipien. On est chez les surréalistes totalement. Par exemple, je peux vous dire, il y a un test qui s'appelle « Quelle chanson de Dalida êtes-vous ?» un autre texte qui s'appelle « Quel genre de fille êtes-vous ?» et qui dit en sous-titre que les réponses nous apprendront à flirter avec notre vérité. « Quelle humidité êtes-vous ?» Ça, c'est pour apporter de l'eau à notre moulin. Ou alors, un peu plus loin, quelle tactique de football préférez-vous pour passer de la théorie à la pratique ? C'est délirant, c'est amusant. Et c'est censé restituer les zones d'ombre, les creux, tout ce qui a été dit en creux entre ces deux femmes pendant leur rencontre, pendant ce jeu de séduction. Et puis, à l'issue de ces tests, qui sont très nombreux et que vous pouvez vous amuser à faire seul ou à plusieurs, ça c'est chouette aussi, un livre qui se partage de cette façon-là, on trouve trois derniers textes poignants. Tout ça est emprunt de culture féministe, mais non excluant, non enfermant. Il n'y a pas besoin d'appartenir à un collectif, il n'y a pas besoin de code, d'un vocabulaire précis pour rentrer dans cet univers-là. Les trois textes sont enfermés dans des sortes de sous-parties qui s'appellent « Avant, pendant et après ». C'est juste magnifique. Et du coup, en creux, j'ai fini par l'imaginer, cet autre personnage-là, celle qui répondait, celle qui était là aussi pour nourrir et fabriquer la séduction, même si au final elle rejette. Et voilà un petit peu comment je l'ai pensé.
Qu'elle était belle, ma maman Paline, vue sur une prairie solitaire. Ma belle étante, sculpture androgyne, tu n'insistas pas pour me plaire. Je ne suis pas de celles qui bondissent sur le premier bijou souriant. Du temps il me faut pour que j'agisse, cœur de mousse modère ses battements. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner de moi mon amoureuse. Une mer pressée sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner de moi mon amoureuse, telle une mer pressée. Où cours-tu ma fugitive, mon indécision t'a glacée, mais elle te réclame mon âme vive, tu m'as trop vite abandonnée. Trop vite abandonné. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner de moi mon amoureuse, telle une mer pressée. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner de moi mon amoureuse, telle une mer pressée. J'ai le sang bon de l'ingrate, une absurde rancœur à vivre, l'odeur d'une ivresse écarlate. Elle emporte avec elle ses pensées secrètes, son drap et ses dentelles, ses cendres de cigarette.
Voilà, c'était Mon amoureuse de Mansfield Tia, pour vous dire l'autre personnage, pas celle qui serait la narratrice, mais l'autre, donc, à vous de découvrir, dans cet ouvrage qui vient de sortir chez Cambourakis, dans la collection Sorcière, qui s'appelle La langue des oiseaux, Quel amoureux, quelle amoureuse êtes-vous, et qui est signé Rachel Esterman-Ullman. Et il est grand temps pour moi de la recevoir. Rachel Esterman-Ullman, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Alors, ma toute première question, La langue des oiseaux et votre premier ouvrage, pouvez-nous vous dire comment est entrée l'écriture dans votre vie, en fait ?
Ah bah, c'est quelque chose que je veux faire depuis que je suis toute petite. Je me suis toujours vue plus tard comme écrivaine, mais c'est jamais quelque chose dont j'ai sauté le pas, par manque de confiance en moi, j'imagine. Et un peu plus tard, j'ai fait les beaux-arts, etc. Donc il y a eu quand même des pratiques artistiques dans ma vie. Et puis, en 2004, pour différentes raisons, j'ai sauté le pas là-dessus, en sachant que j'écrivais de la poésie quand même depuis un certain temps.
Alors, pour faire écho au titre de l'ouvrage, on le sait, La langue des oiseaux, c'est une espèce de langue qui, en décryptant les sons des mots, donne un autre sens aux mots. Par exemple, Laurence peut s'entendre en langue des oiseaux, O, et puis un peu plus loin, Rance. Et donc, expliquer d'une certaine manière une sorte d'inconscient qui aurait pesé lors de choix d'un prénom, là, dans ce cas-là. Alors, Rachel, l'amour, quand il est parlé, vécu, ressenti, il faut encore le décrypter. C'est cela que vous voulez dire en choisissant ce titre ?
Non, pas vraiment, en fait. La langue des oiseaux, c'est pas uniquement les différentes interprétations qu'on peut donner aux mots par rapport aux sonorités, c'est aussi tous les jeux de langage qu'il peut y avoir. Mm-hmm. Et c'était surtout là-dessus, en fait, que ça se jouait, sur tous les jeux de mots et tout ce qu'on pouvait faire avec la langue. Mm-hmm. Donc c'était plus là-dessus que ça se jouait, puisqu'il y a beaucoup de... Tout le projet de La langue des oiseaux repose sur... c'est pas du tout une fiction narrative classique.
Oui, tout à fait.
C'est un sous-entendu par rapport à ce qui se passe dans la lecture de ces textes qui peuvent être lus comme quelque chose d'uniquement ludique. Mmh. Il y a toute une histoire qui se raconte en dessous et c'est plus là-dessus que ça se joue le titre.
Alors, comment définissez-vous votre ouvrage ? Dieu merci, on va pas essayer de lui coller une étiquette, mais quand vous le présentez, comment est-ce que vous en parlez ?
Ah ben, je dirais que c'est un roman non conventionnel, un peu un ovni littéraire, quelque chose comme ça, mais en l'occurrence, c'est pas du tout... Enfin, le livre, il est classé dans plein d'endroits différents dans les librairies. Des fois, il est placé dans le coach de relations de couple,
oui.
C'est un peu drôle, ou en sociologie, ou en poésie. Voilà, je le mettrais plus dans... S'il fallait vraiment le classer, je le mettrais en poésie, parce que c'est clair que c'est pas une fiction narrative classique, mais... C'est pas non plus de l'humour, ou voilà, c'est plein de choses en même temps.
Alors quand on lit les phrases d'introduction à l'ouvrage, on comprend que cet exercice a permis à la narratrice de mettre à distance une déception amoureuse, quelque chose qui a de l'ordre du rejet, ou quand deux personnes ne ressentent pas la même chose. Est-ce que ça faisait aussi partie du projet littéraire, en fait ?
La question, c'est si c'est de l'autofiction ?
Bah, on peut le dire comme ça, oui.
Voilà. En fait, non, je sais qu'il y a eu une erreur par rapport à la présentation qu'a fait la maison d'édition. Il y a eu une présentation temporaire qui a été envoyée au libraire, qui maintenant se retrouve comme présentation officielle, qui présente comme telle, mais en fait, c'est pas le cas. C'est vraiment... Alors, bien sûr, évidemment, tout le monde a eu des... Enfin, j'imagine que la plupart des gens n'ont pas été totalement amoureux dans leur vie et de façon réciproque, donc il y a forcément des... Mon point de vue sur la question, etc., mais ça retrace pas quelque chose que j'aurais vécu et que je voudrais raconter. C'est vraiment... Il y a tout un aspect de construction d'écriture de par contrainte, etc., que oui. J'ai voulu faire. Donc voilà, il y a des choses qui résonnent en moi sur ce genre d'aspect, mais c'est quand même très universel, l'amour, les peines amoureuses, etc.
Tout à fait. Donc, vous avez choisi, je le dis largement dans la chronique qui précède notre entretien, cet outil qui peut être très ludique, surtout vu comment vous l'avez utilisé, qui est le questionnaire. Et l'auteur, donc vous, dites en préambule que c'est aussi censé restituer les zones de non-dit, les zones d'ombre, les zones de creux de la discussion amoureuse qui a eu lieu avant entre les deux personnages féminins. Pourquoi avoir fait le choix de cet outil qui est le questionnaire, en fait ?
Ce que je pourrais faire pour répondre, peut-être, c'est raconter comment est né ce projet. Mmh. Alors en fait, je l'ai écrit en 2014, et en 2014 j'étais un peu à un moment donné où j'arrivais plus du tout à créer. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait les beaux-arts et je suis plutôt du côté artiste plasticienne. Mm-hmm. Et je faisais plus rien depuis un certain temps et ça me posait un problème, ce côté, cette impasse. Et je m'étais dit que cette année, en 2014, il fallait absolument que j'arrive à me remettre dans un état de création, sinon il fallait que j'acte le fait que je le faisais plus. Et donc j'ai renoué avec un projet ancien que j'avais en termes d'écriture, que je n'ai pas du tout fait, hein, parce que j'avais la pression par rapport à ça. Mais donc c'est toute une adéquation de plein de choses. Il y avait ce projet et cette tension de création. Il y avait le fait que je venais de lire et de découvrir 19 poèmes d'amour et un chant désespéré de Pablo Neruda, qui m'a beaucoup plu. Et ça, plus le fait que j'écrivais des tests par ailleurs, que j'avais une facilité pour écrire des tests, un peu, j'espère en tout cas un peu rigolo.
Oui, tout à fait.
J'avais envie de plutôt rentrer dans sur cette forme-là, en fait. Mais je ne voulais pas écrire des poèmes parce que j'avais trop peur de la comparaison avec Pablo Neruda et tout ça. Et puis, par ailleurs, j'aime beaucoup Georges Perec et l'Oulipo, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un ensemble d'écrivains et d'écrivaines qui jouent avec la langue par rapport à des contraintes pour écrire. Parce que faire Georges Perec et plein d'autres personnes, comme Raymond Queneau et encore plein d'autres personnes. Et donc, je me suis mis un cadre très contraint, en fait, pour l'écrire. Et voilà, il y a tout. Après, je peux développer, mais je ne sais pas.
Non, c'est très bien et ça permet de comprendre. Effectivement, j'avais noté aussi, et j'en ai parlé dans la chronique, cette dimension oulipienne de ces questionnaires et du coup de l'ensemble de votre ouvrage aussi. Rachel, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation ce matin. Vous ne couperez pas à la question Rock'n'Page. Quel titre de chanson avez-vous choisi pour évoquer votre travail ?
Eh bien, j'ai hésité entre plusieurs, mais celle qui me semble la plus évidente, parce qu'elle a aussi un petit côté lesbien, si on fait pas très attention aux paroles, en fait, si on fait attention aux paroles plutôt, il y a pas rapport. Un seul moment où on peut penser que ça s'adresse à une fille, c'est « Cette fille n'est pas pour toi » de Gilles Kaplan. Et c'est aussi un aspect assez important, le côté lesbien du livre.
Très bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup.
Je ferai
Voilà, c'était Gilles Kaplan, choisi par Rachel Esterman-Ullmann, qui vient de nous faire l'honneur de répondre à toutes nos questions, ici même dans Rock'n'Page, au sujet de son excellent ouvrage que je ne peux que vous recommander d'acheter, de partager, de faire tourner. Allez en terrasse de café et amusez-vous à faire tous les tests. Vous allez vous régaler, vous allez rire et pas que. Vous allez découvrir aussi cette plume qui, à mon avis, est très prometteuse, celle de Rachel Esterman-Ullmann. Donc, Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Vous pouvez retrouver tous les anciens numéros de l'émission sur le blog qui lui est consacré et vous avez qu'à taper Rock'n'Page dans un moteur de recherche. Il est l'heure de la chronique de Léo Milodic. C'est ainsi que nous nous quitterons avec cet excellent Léo Milodic qui écrit et qui dit pour nous ses chroniques ici même dans Rock'n'Page.
Lucilius. Oui, je l'ai suivi jusqu'au sommet de la colline. Tout jeune Romain, j'allais jouer avec mes frères et sœurs. Mila, la plus jeune, voulait y construire son palais et nous nommer ses centurions. Son royaume de petite fille était peuplé de jardins, d'esclaves et de combattants. Darius et moi, nous nous battions à coups d'épée de bois. Et lorsque l'un de nous tombait à terre, le vainqueur lui portait le coup fatal. Ave gladiateur, tu as péri sous ma lame. Rachel cueillait des fleurs et Julius était à ses poèmes et parlait dans le vent. Je les aime, mes frères et sœurs. Je ne sais pas qui est cet homme. Nous toussons dans la poussière depuis des heures derrière lui. Il traîne son morceau de bois et nous suivons. Il marche dans son sang, sans sandales. Nous sortons de la ville. Le sol cogne à nos casques. Nos glaives sont brûlants. Je ne comprends pas pourquoi cet homme à moitié nu monte là-haut, vers mon enfance. La pente est raide. Il est tombé plusieurs fois, écrasé par le poids du bois sur ses épaules. La terre est lourde, autour de nous une foule immense. Que se passe-t-il? Plus nous montons, plus le ciel se noircit. Nous arrivons dans le creux d'une rivière asséchée qui nous mènera au sommet. C'est ici que Darius aimait à faire partir de petites avalanches en lançant un caillou dans la pente. Je ne sais pas de quoi cet homme est fait, s'il porte ou est porté par ce poteau qu'il tire comme un bœuf au sillon. Nous y sommes. L'homme est plaqué au sol sur le bois qu'il portait. Le ciel est devenu d'un noir de suie. J'entends le bruit des cogniers. Puis, par un mouvement de corde, on lève et plante un homme écartelé. Je me suis écarté. Je les ai laissés faire. J'entends encore Julius chanter. Tu verras, au printemps, il y aura 1000 fleurs sur notre Golgotha.
That evening, as the boy was climbing into bed, a sadness came over him. His mother studied his face as she pulled the blankets up under his chin. She went to his record player, pressed the button, and the light came on. The turntable began to spin, and she lowered the needle.
Once again, you said.
Carefully. He closed his eyes, settling into his pillows and blankets. He closed his eyes and imagined a path.